RFI, il est 22h, ici à Paris, 2h de moins en temps universel.
Loïc Bussière.
Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour votre journal en français facile, journal que je vous présente en compagnie de Sébastien Duhamel. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Loïc, bonsoir à tous.
À la une, ce soir, la répétition générale à Hong Kong pour les manifestants pro-démocratie. Une nouvelle journée de manifestation avant une marche qui pourrait rassembler 1 million de personnes demain, dimanche.
Un accord historique au Soudan. Les militaires au pouvoir et les meneurs de la contestation signent un texte qui ouvre la voie à un transfert du pouvoir aux civils.
Et puis nous reviendrons sur cette conférence internationale qui s'est ouverte à Genève, une réunion avec un objectif, mieux protéger les animaux et les végétaux menacés.
Le journal en français facile.
À Hong Kong, le mouvement pro-démocratie se prépare à une nouvelle démonstration de force.
Oui, des milliers de manifestants s'étaient rassemblés aujourd'hui pour protester contre la politique gouvernementale et contre les violences policières. Et ce, avant un grand rendez-vous qui devrait être très suivi demain, dimanche. On parle d'une marche d'au moins 1 million de personnes, comme au plus fort de la mobilisation, et ce malgré l'interdiction de manifester. Je vous propose d'écouter le témoignage de cette jeune manifestante recueillie sur place par notre envoyé spécial, Abla Junaidi.
Avant ces 2 mois, je n'étais pas vraiment intéressée par la politique. Mais en 2 mois, j'ai beaucoup appris. J'ai vu la force extrême employée par la police. J'ai vu comment le gouvernement ignorait nos demandes. En tant que jeune, je n'ai pas beaucoup d'espoir quant à mon avenir, mais je dois me battre. Je n'ai pas de passeport qui me permet de voyager comme certains de nos dirigeants qui n'ont aucun souci à se faire. Pour sauver mon avenir ici, je n'ai pas d'autre option que de me battre.
Voilà, le témoignage d'une manifestante à Hong Kong recueillie par notre envoyé spécial Abla Junaidi.
Un accord historique au Soudan. Les militaires au pouvoir et les meneurs de la contestation ont signé aujourd'hui un texte qui ouvre à la voie à un transfert du pouvoir aux civils.
Il prévoit la création d'un conseil souverain qui va gérer la transition. Sa composition sera annoncée demain dimanche. Un nouveau Premier ministre sera lui nommé mardi et la composition de son gouvernement annoncée d'ici la fin du mois.
En Syrie, nouveau raid de l'aviation russe dans la province d'Idleb.
Des raids qui auraient fait 11 victimes parmi les civils, c'est ce qu'indique l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Hier, une quinzaine de personnes avaient déjà été tuées dans des bombardements de Damas et de Moscou, notamment sur un camp de déplacés au sud d'Idleb.
Au Yémen, le bilan des violences de la semaine dernière est également lourd. Plusieurs dizaines de morts à Aden, la grande ville du sud, à l'issue de combats fratricides entre forces loyalistes et forces séparatistes sudistes.
Et deux blocs qui sont généralement unis dans la lutte contre les rebelles houthis du Yémen. Ces dernières heures à Aden, les séparatistes ont commencé à se retirer des positions conquises sur le camp présidentiel. Les détails avec Nicolas Falaise.
Les forces séparatistes sudistes se sont retirées du siège du gouvernement, du Conseil suprême de la justice, de la Banque centrale ou encore de l'hôpital d'Aden. L'évacuation doit se poursuivre sur d'autres sites, tels que le ministère de l'Intérieur et la raffinerie. Toutes ces positions avaient été conquises la semaine dernière par le Conseil de transition du Sud, un mouvement séparatiste qui veut une nouvelle partition du Yémen. Ce qui ne l'empêche pas depuis plusieurs années de combattre aux côtés des forces loyales au président yéménite Abed Rabo Mansour Hadi, avec pour ennemi commun la rébellion des Houthis du Yémen qui contrôle de larges territoires et notamment Sanaa, la capitale. Le retrait en cours à Aden est le résultat de l'intervention de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, principaux belligérants au sein de la coalition régionale qui combat les Houthis, mais avec des alliances différentes. Riyad soutient le camp présidentiel au Yémen alors que les Émirats sont plus proche des séparatistes sudistes.
Nicolas Falaise. Et puis j'ajoute qu'un incendie limité a été maîtrisé ce samedi sur une installation gazière dans l'est de l'Arabie Saoudite. C'est ce qu'annonce le géant pétrolier saoudien Aramco après une attaque dans ce secteur, une attaque revendiquée par les rebelles yéménites houthis.
22h passées de 5 minutes à Genève, un sommet pour mieux protéger les espèces menacées.
Aujourd'hui, c'est ouvert en effet en Suisse une conférence internationale sur la manière de mieux protéger les animaux et les végétaux menacés. L'une des pistes avancées, c'est de limiter leur commerce. 180 pays participent à cette réunion, Pierre-Olivier.
En mai dernier, l'ONU l'annonçait, 1 million d'espèces sont menacées de disparition. Un chiffre jusqu'à présent jamais atteint qui fait craindre une 6e extinction de masse depuis l'apparition de la vie sur Terre. Dans ce contexte tendu, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, qui se réunit tous les 3 ans, entend mieux encadrer les règles d'achat et de vente de ces espèces. Au total, de l'éléphant d'Afrique aux bois exotiques en passant par la sangsue médicinale, cette convention fixe les règles commerciales de plus de 35 000 espèces, dont 85% de plantes. C'est elle qui décide par exemple du degré de protection à attribuer à chacune d'entre elles, variant de 1 à 3. À chaque niveau correspondent des règles plus ou moins contraignantes pour en limiter le commerce, la principale menace pour ces espèces sur laquelle l'homme peut agir directement. Pour la première fois cette année, le cas des girafes devrait être particulièrement étudié puisque leur population a décliné de 40% en 30 ans. Pas sûr pour autant que la girafe soit inscrite sur l'une des listes de protection, son déclin est étant davantage dû à la perte de son habitat naturel qu'au commerce.
Précision signée Pierre-Olivier.
Dans l'actualité également, la situation au Cachemire et ses échanges de tirs entre l'Inde et le Pakistan de part et d'autre de la frontière.
Ouais, c'est ce que rapporte New Delhi. Pas de commentaire pour le moment côté pakistanais. Les autorités indiennes, je le rappelle, ont annoncé il y a une dizaine de jours la révocation de l'autonomie de la région, également revendiquée par le Pakistan.
27 migrants mineurs, des non-accompagnés, ont été autorisés à débarquer du navire de l'Open Arms.
Le navire humanitaire espagnol qui stationne toujours au large de Lampedusa. Hier, le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, s'était opposé à son accostage sur l'île, malgré l'accord européen annoncé la veille pour la prise en charge des migrants. Il a toutefois autorisé aujourd'hui les mineurs à débarquer à la demande du président du Conseil italien, Giuseppe Conte.
On apprend ce soir la disparition de Jacques Diouf. Le diplomate sénégalais avait dirigé l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture pendant 18 ans, de 1993 à 2011.
Oui, il s'est éteint ce samedi à l'âge de 81 ans à l'hôpital américain de Neuilly, en région parisienne. Depuis la fin de son mandat à la tête de la FAO, Jacques Diouf avait été successivement conseiller du président sénégalais Macky Sall et puis du président guinéen Alpha Condé.
Une autre disparition ce samedi, celle de l'acteur américain Peter Fonda.
Peter Fonda qui s'est éteint à son domicile de Los Angeles à l'âge de 79 ans. Il restera attaché au film culte Easy Rider, film qu'il avait coécrit avec Terry Southern et Dennis Hopper. Son portrait par José Marinho.
Les jambes étendues sur sa Harley Davidson, Wyatt, joué par Peter Fonda, décide de traverser les États-Unis avec Dennis Hopper dans le rôle de Billy. Les deux motards tracent la route et découvrent un mode de vie hippie. Jeune et rebelle en quête de liberté, ils se confrontent alors à l'Amérique profonde, raciste et conservatrice, qui refuse l'évolution des mentalités. Ce road movie révolutionnaire, mythique, est sorti en 1969, année du festival Woodstock, qui fête ses 50 ans cette année, comme le film d'ailleurs. Devenu un emblème de toute une génération hippie, Easy Rider est aujourd'hui un symbole de la contre-culture américaine. Engagé et militant écologiste, Peter Fonda avait fait sensation au festival de Cannes en 2011, lorsqu'il a dit au président américain de l'époque, Barack Obama, qu'il était un putain de traître. Il lui reprochait notamment la catastrophe de la marée noire dans le golfe du Mexique. Indomptable et déjanté, la star Peter Fonda l'a été jusqu'à sa mort.
On se quitte justement sur cette musique associée au film Easy Rider, Born to be Wild du groupe Steppenwolf, en hommage à la disparition de Peter Fonda.